Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, depuis le début de l'année 2010, vous entendez parler de climato-sceptiques ou encore de GIECO-critiques. Il s'agit de certains scientifiques qui fustigent les conclusions du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Le GIEC estime en effet que 90% du réchauffement climatique observé au cours des 50 dernières années est imputable à l'activité humaine. Que nenni, répondent les climato-sceptiques, si réchauffement il y a, c'est le résultat d'un réchauffement naturel de la Terre imputable à son orbite et au vent solaire. Les émissions de gaz à effet de serre issues des hommes n'y sont pas pour grand-chose selon eux. Les climato-sceptiques sont peu nombreux dans le monde scientifique, mais ils font mal car une véritable crise de confiance est engagée. Alors faut-il réformer le GIEC ? Les scénarios des personnes qui travaillent dans le GIEC sont-ils catastrophistes ? Pour parler avec nous de l'avenir du GIEC et du rétablissement de la confiance auprès de ce groupe de travail intergouvernemental, deux invités sont avec nous, Hervé Le Treut et Michel Petit. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Hervé Le Treut, vous êtes spécialiste de la modélisation du climat, membre de l'Académie des sciences, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace et membre du GIEC. Je rappelle d'ailleurs que vous avez publié « Nouveau climat sur la Terre, comprendre, prédire et réagir » en novembre 2009, paru chez Flammarion. Et Michel Petit, vous êtes spécialiste de l'effet de serre, ancien membre du bureau du GIEC où vous étiez responsable du groupe Incertitudes scientifiques et risques climatiques. Vous êtes correspondant à l'Académie des sciences.
Oui, et j'ai également publié un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que l'effet de serre ?», qui est un ouvrage de vulgarisation qui est sorti en 2003 et édité en 2004, qui était un ouvrage destiné au grand public d'une petite centaine de pages.
Venons-en à cette crise de confiance émise par ces climato-sceptiques. Est-ce que cette crise de confiance, initiée par des scientifiques, pour quelques-uns d'entre eux, est-ce que cette crise de confiance était prévisible ? Hervé Le Treut, pour commencer.
Oui, elle était prévisible parce que les enjeux autour du GIEC sont des enjeux qui vont en croissant. On parle maintenant de mettre en phase avec la réalité les conclusions du GIEC, c'est-à-dire de prendre maintenant les mesures que le diagnostic scientifique recommande, puisque le diagnostic scientifique n'est pas prescriptif, mais enfin, il induit un certain nombre d'actions. Donc, au fur et à mesure que cette interface entre science et politique conduit à prendre des mesures qui sont plus lourdes, je pense que le niveau de critique qu'on peut attendre autour du GIEC a grandi. Maintenant, ce qui m'ennuie un petit peu dans toutes ces critiques, pour rebondir juste sur votre introduction, quand on parle de ces 90%, par exemple, il y a une lecture précise de ce qu'a dit le GIEC, qui est très souvent absente de tous ces commentaires. Ce que dit précisément le GIEC, c'est qu'il n'y a 90% de chances qu'une part du réchauffement climatique actuel soit imputable aux activités humaines. Autrement dit, il n'y a que 10% de chances pour qu'il n'y ait aucune trace des activités humaines dans les changements qu'on est en train de vivre. Ce qui est une chose très différente. Et ce 90%, on l'a vu à toutes les sauces. Et je pense que même beaucoup de gens ont interprété cela comme, parce que ça a été un petit peu induit dans les commentaires, comme le fait que le GIEC pourrait voter. Donc il y aurait 90% des membres du GIEC qui penseraient que le climat se réchauffe, et puis 10% qui penseraient que non, et d'où toute une série de remarques sur le fait que la science ne se décide pas au vote. Mais il n'y a jamais été question de ça dans le GIEC. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une grande partie des remarques que l'on fait actuellement, on pourra y revenir dans le détail peut-être, s'appliquent non pas au GIEC, mais à l'idée que beaucoup de gens se font du GIEC. Et c'est un des problèmes fondamentaux qu'on va rencontrer.
Michel Petit.
Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Hervé. En particulier, on reproche au GIEC de travailler par consensus. Et on induit souvent, là, il n'y a pas de vérité scientifique moyenne. Mais les consensus du GIEC ne portent pas sur une vérité scientifique moyenne. Il y a une règle d'or du GIEC qui dit que lorsqu'il y a des opinions contradictoires, elles doivent être exposées dans les rapports du GIEC avec les points de vue des uns et des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dégager des tendances générales de ce que dit le GIEC, mais le consensus n'est pas un consensus moyen, c'est un consensus qui, sur un état des connaissances dans lequel les polémiques éventuelles doivent parfaitement être mises sur le tapis et sont effectivement mises sur le tapis.
Peut-être pourriez-vous nous rappeler à juste titre le fonctionnement du GIEC en essayant d'être assez rapide puisque c'est un fonctionnement assez compliqué.
Oui, c'est un fonctionnement qui est compliqué, mais je commencerai presque par dire en matière de provocation que le GIEC n'existe pas, que seuls existent les rapports du GIEC. En ce sens que le GIEC, ça n'est personne. On vous dit parfois vous êtes membre du GIEC. Bon, oui, si on veut. Mais en fait, ça n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas des gens qui sont membres du GIEC et des gens qui ne le sont pas. Il y a en tout et pour tout, non pas des gens grassement payés par le GIEC, mais quelques fonctionnaires détachés par l'OMM et par le PNUE, au moins d'une dizaine, qui font fonctionner la mécanique générale. Mais les rapports du GIEC sont écrits par des scientifiques qui conservent leur statut de scientifique et leur salaire de scientifique et qui mettent en jeu leur réputation de scientifique. C'est-à-dire que s'ils écrivaient des horreurs, eh bien c'est leur réputation de scientifique qui en jouerait. Et finalement, le but de la vie de tout scientifique, c'est quand même d'être respecté de ses semblables. Et donc, ces rapports sont écrits par des scientifiques. Et d'ailleurs, quand on passe d'un rapport au suivant, il y a un très grand renouvellement dans les auteurs. Lorsque certains participent à plusieurs rapports successifs, mais la majorité d'entre eux sont fatigués après avoir fini un rapport et passent à autre chose et laissent la place à d'autres pour écrire le rapport suivant. D'autre part, les rapports qui sont écrits font l'objet d'une double procédure de revue, c'est-à-dire que la première version est envoyée à tous les experts connus du monde qui ont été recensés, et toute personne, c'est pas du tout secret, toute personne qui a des compétences scientifiques peut envoyer des remarques scientifiques sur cette première version, et toutes les remarques sont collationnées, récapitulées ligne par ligne, c'est-à-dire qu'on sait que pour le groupe 1, dans le chapitre 8, à la page 25, il y a 15 commentaires qui sont tac tac tac, et chacun de ces commentaires est traité et fait l'objet de la part des auteurs d'une réponse, c'est-à-dire qu'on sait comment on a traité chacun de ses commentaires. C'est la deuxième version qui est rédigée et renvoyée à tous ceux qui ont commenté sur la première version, et elle est renvoyée en plus au gouvernement qui peuvent faire appel à leurs experts pour analyser les faiblesses scientifiques s'ils ont un intérêt politique à prendre une position ou une autre. Et bon, évidemment que les pays producteurs de pétrole sont particulièrement peu enclins d'être favorables à l'approbation du réchauffement climatique.
Hervé Le Treut, j'aimerais vous faire rebondir sur un de vos propos, hein, chose pas très commune. Émission que vous avez réalisée avec Jacques Pogam, L'Essentiel, avec Hervé Le Treut, en l'occurrence vous. Vous avez dit « Il faut certes s'engager, mais en distinguant ce que nous savons de ce que nous ignorons. Elle est finie, la tour d'ivoire des scientifiques, il y a un devoir d'information et de formation. » J'aimerais rebondir avec le GIEC. Le GIEC a-t-il valeur d'information et de formation ?
D'information, certainement, et de formation pour au moins un public très précis, qui est celui des gouvernements. Le GIEC a été créé parce que les gouvernements, le G7, c'est la fin des années 80, aient ressenti le besoin d'une expertise internationale qu'il a placée dans le cadre des Nations Unies, donc à travers du programme environnement des Nations Unies, au travers aussi de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui est une des plus anciennes, les plus vénérables des sociétés savantes présentes dans la communauté scientifique. Et donc le but était bien d'organiser une expertise internationale permettant de donner des réponses à des politiques. Donc il s'agit bien de fournir une information qui est objective et qui se veut surtout centrée sur des questions. Et les questions étaient très claires, c'est on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut laisser faire? Est-ce qu'au contraire il faut essayer de réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que si on les réduit pas ou trop tardivement, il va y avoir des conséquences auxquelles il faut se préparer? Donc c'est toutes ces questions qui sont des questions extrêmement précises qui ont fait l'enjeu du GIEC. Et je crois que ce qu'il y a d'unique dans le GIEC, qu'il faut protéger, quels que soient les problèmes actuels, à mon avis, c'est le fait d'avoir porté cette expertise au niveau international. Si on regarde tout l'ensemble des problèmes science-société auxquels on est confronté, on peut penser aux OGM, on peut penser à la biodiversité, on peut penser aux problèmes de ressources énergétiques dans différents domaines, nucléaires, pétroliers, on a toujours eu du mal à mettre en place une expertise au niveau international. Et dans le cadre de nos études climatiques, ça a été possible parce qu'il existait depuis longtemps, depuis cette organisation très ancienne de l'Organisation Météorologique Mondiale, une réelle communauté scientifique travaillant ensemble à l'échelle mondiale pour mettre en place des systèmes de prévision, pour mettre en place des systèmes d'observation de la planète. Donc c'est quelque chose de relativement unique et qui a effectivement un but d'information et d'une certaine manière, pour le public au moins auquel s'adresse, de formation.
Information n'est pas recommandation, ce sont deux choses différentes.
Alors, ce que le motto du GIEC, c'est d'être, en anglais on dit « policy relevant », mais pas « policy prescriptive », c'est-à-dire de donner des informations qui sont utiles à la prise de décision politique, mais qui ne sont pas des prescriptions politiques. Je veux dire que quelquefois, ça arrange certains politiques d'utiliser les résultats du GIEC comme une prescription. Et je pense qu'au moment de Copenhague, la limite entre les deux a été franchie plusieurs fois. Et c'est dommage pour le GIEC. Je pense que le GIEC doit rester un outil d'éclairage de la décision politique, mais qui se prend ailleurs sur des critères beaucoup plus larges.
Michel Petit, vous nous avez très bien expliqué le fonctionnement du GIEC rapidement, puisqu'on essaie d'expliquer les choses de manière assez courte. Pour revenir sur le fonctionnement du GIEC, un rapport est émis tous les 6 ans. Une des critiques émises contre le GIEC, c'est justement justement ces rapports longs, est-ce qu'il y a une possibilité pour que ces rapports soient remis plus rapidement dans une société où on veut les choses de plus en plus vite ?
Mais il y a des difficultés à aller beaucoup plus vite et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de vertus à aller beaucoup plus vite. En ce sens qu'il faut bien que la science ait le temps d'évoluer, il faut bien que les observations aient le temps d'être faites et pendant des périodes suffisamment longues pour être effectivement significatives. Et par conséquent, il serait difficile de... Enfin, je dirais que ce n'est pas très utile de faire des rapports plus fréquents. D'ailleurs, quand on regarde les rapports du GIEC de l'un au suivant, les grandes lignes des conclusions évoluent un peu, mais pas de façon absolument dramatique. Il n'y a pas des sauts absolument énormes. Alors maintenant, la procédure de revue que j'évoquais tout à l'heure, c'est forcément intrinsèquement consommateur de temps. Et si on veut avoir le temps de lire la littérature, de la synthétiser, de procéder à la double revue que j'ai indiquée tout à l'heure, eh bien, ça ne peut pas se faire extrêmement rapidement. D'autre part, ça représente un plan de charge énorme sur des scientifiques dont c'est quand même pas le métier numéro un que de faire les rapports du GIEC. Et par conséquent, je crois que ça n'est ni nécessaire, ni guère réaliste de vouloir accroître la fréquence des parutions des rapports du GIEC.
À la base de ce climat de guette, ce sont des erreurs qui se sont glissées dans ces quelques 3000 pages. Erreurs qui, selon les détracteurs, existaient donc depuis la remise du rapport en 2007, dont certains membres du GIEC avaient connaissance. Je fais référence à 2035 au lieu de 2350 pour la fonte des glaciers de l'Himalaya. Et donc, erreur que certains membres du GIEC avaient en compte, avaient en tête, et n'ont pas fait de correction. Alors, est-ce que dans l'amélioration du fonctionnement du GIEC pourrait être repris une certaine forme de lecture pour que ces informations soient peut-être encore plus vérifiées qu'elles ne le sont actuellement ?
Écoutez, le nombre de vérifications qui sont faites est déjà extrêmement impressionnant et c'est effectivement tout à fait curieux que ce 2035 soit passé inaperçu de tout le monde. Il est passé tellement inaperçu de tout le monde que c'est cette année dont on a entendu parler alors que le rapport est sorti en 2007, donc personne, y compris parmi les climato-sceptiques, n'avait noté cette erreur avant. C'est une erreur dans une page d'un chapitre parmi les milliers de pages que comprennent les rapports du GIEC. Ça a effectivement échappé par à tout le monde. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y avait des gens qui étaient conscients de l'existence de cette erreur et qu'ils l'ont véritablement cachée. Lorsqu'on s'est aperçu, bon, on a été tout à fait navré que ça se soit produit. Ça prouve que quelles que soient les précautions qu'on prenne, on ne peut pas échapper à des erreurs humaines. Mais ça portait en tout cas sur quelque chose qui était extrêmement marginal, qui n'a pas été repris du tout comme une conclusion essentielle dans les rapports principaux qui ont fait l'objet d'une approbation formelle dans le rapport à l'attention des décideurs. Et par conséquent, franchement, c'est un tout petit épiphénomène qui a été largement monté en épingle.
Mais alors, comment voyez-vous cette commission scientifique indépendante qui va réfléchir à travailler sur le fonctionnement du GIEC ? Est-ce que c'est justement donner pas du crédit à ceux qui critiquent le GIEC ? Hervé Le Treut.
Je crois que ce que révèle au moins les polémiques, c'est le fait que le GIEC prend un rôle, on lui a donné un rôle qui est central dans le diagnostic de problèmes qui ont une importance énorme sur la manière dont on doit organiser notre rapport à l'économie, aux ressources énergétiques et beaucoup de choses. Donc, une des forces du GIEC, c'était d'être organisé sous forme d'un mouvement collectif de scientifiques bénévoles, ça en plus de leur travail personnel, et donc souvent le soir, la nuit. Je sais que quand j'étais auteur-coordinateur d'un chapitre, chapitre 1 du rapport du groupe 1, bon, quand on a rendu ce chapitre, ça veut dire qu'il faut rendre ça dans des délais très précis, c'est-à-dire des journées, des nuits de travail, pour essayer d'être dans les temps. Les risques de faire une erreur sont non nuls, même si on sait qu'il y a des enjeux, on sait d'être attentif, il y a eu plusieurs relectures, mais les risques de faire une erreur matérielle, et derrière, comme l'a dit Michel Petit, le staff qui relie ces documents n'est pas très grand. Le staff technique est de quelques personnes à Genève, quelques personnes dans chacun des trois groupes, c'est très très faible. Donc moi je crois qu'il y a besoin maintenant, effectivement, si on veut donner un rôle au GIEC, de lui donner une architecture un petit peu plus forte. D'une certaine manière, ça a été toute l'histoire du GIEC, ça a été de renforcer progressivement les procédures. Si on compare les procédures au moment du premier rapport, du deuxième rapport, du troisième rapport, il y a eu un renforcement constant de ces procédures. Le mettre sous l'égide d'une commission qui va avoir une autorité morale forte pour s'assurer justement de toutes les règles de transparence et les mettre sous un chapeau qui éloigne le plus possible le doute ou les... Je pense que c'est nécessaire, puisque le rôle du GIEC, c'est effectivement d'inspirer confiance. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour que cette confiance soit maintenue.
Michel Petit, en préparant cette émission, vous m'aviez dit que ce qui était important, ce n'était peut-être pas finalement la polémique sur le GIEC, mais plutôt ce que le public comprenait, à savoir ce réchauffement climatique. Il y a vraiment une prise de conscience du réchauffement climatique.
Il est certain qu'on ne défend pas le GIEC pour défendre le GIEC. Comme l'a dit Hervé, c'est un outil qui a été critiqué, mais qui devrait au contraire servir de modèle pour aborder un certain nombre d'autres problématiques, comme il a dit. La mise en place de cette commission que vous évoquiez tout à l'heure, moi, elle me paraît une excellente chose, parce que cette commission, si elle travaille bien, va nécessairement arriver à la conclusion que le GIEC travaille bien, et ça va donc mettre, j'espère, en tout cas atténuer un petit peu l'influence néfaste que peuvent avoir les climato-sceptiques dans l'opinion publique mondiale. Alors, il est certain que le grand public, pour revenir à votre question, a du mal à comprendre le détail des phénomènes physiques qui sont mis en jeu, parce que c'est de la science un petit peu compliquée, qu'on ne peut pas mettre tout le détail des raisonnements scientifiques sur le tapis, c'est trop compliqué. Donc, il y a forcément une part de confiance, mais je pense que c'est aussi le travail des scientifiques, et moi, en ce qui me concerne, je m'efforce en tout cas de le faire au maximum, que d'expliquer aux gens quels sont les grands phénomènes de base qui sont en jeu et quelles sont les raisons qu'on a de croire à l'existence malheureusement bien réelle d'un changement global du climat de la planète qui va s'amplifier d'autant plus que nous émettrons plus de gaz à effet de serre dans les décennies à venir.
Cette question s'adresse à vous deux. Ne trouvez-vous pas plus rassurant d'entendre dire que le réchauffement climatique n'est pas la conséquence de l'humanité, mais la conséquence d'un réchauffement planétaire qui s'inscrit dans une échelle de temps beaucoup plus longue?
Oui, mais ça c'est la politique de l'autruche. On peut se mettre la tête sous le sable et se dire c'est pas de ma faute. Nous, notre devoir, c'est de dire que notre avenir est entre nos mains, que nous pouvons y faire quelque chose. Les mesures qui sont à prendre sont pas des mesures qui sont des mesures épouvantablement difficiles. Il n'y a rien d'irréaliste dans tout ça. Il faut simplement qu'on accepte de comprendre que la façon, notre rapport à l'énergie a été un rapport d'énergie qui était empreint d'une dose d'irresponsabilité quant à l'avenir. L'humanité s'est développée en utilisant l'énergie des combustibles fossiles. De toute façon, ces combustibles fossiles seront épuisés d'ici un tout petit nombre de siècles. Il faudra bien que nous apprenions à vivre avec autre chose. Mais si nous utilisons la totalité des combustibles fossiles présents, nous aurons complètement changé le climat de notre planète et de toute façon, on sera ramené au problème précédent à l'issue. Donc, pour moi, il est tout à fait du devoir des scientifiques d'attirer l'attention du grand public sur l'existence de ce bouleversement du climat de la planète. Et ça ne sert à rien de vouloir se cacher la tête dans le sable, ce serait totalement déraisonnable.
Alors, je vais peut-être poser ma question plus directement pour venir à la dimension économique, c'est-à-dire le public prend conscience des changements climatiques et voit peut-être aussi arriver des taxes, notamment la taxe carbone, qui pourrait les, entre guillemets, pénaliser. En tout cas, c'est comme ça que ça pourrait être vécu. Est-ce qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre sans faire payer les contribuables? Hervé Le Treut.
Je pense qu'il faut bien séparer deux débats qui sont le débat scientifique et le diagnostic scientifique. Et donc, je crois qu'on a parlé de confiance. Je pense qu'il n'y a de démocratie que quand il y a de la confiance. Donc, sur tous ces problèmes scientifiques, il ne peut y avoir de démocratie, des choix scientifiques, des choix complexes d'une société, que s'il y a une confiance dans les institutions scientifiques. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel autour du GIEC. C'est ce qu'a voulu faire le GIEC et c'est ce qu'il faut effectivement maintenir. C'est cette confiance du grand public vis-à-vis de ces institutions scientifiques. Maintenant, c'est vrai que le problème qui se pose est un problème qui est complexe parce qu'il n'est pas seulement scientifique. Il n'est pas seulement scientifique et il n'est pas seulement celui d'une science. On l'a vu avec les agrocarburants, prendre des mesures où on dirait on multiplie les surfaces plantées en betteraves qu'on va utiliser pour faire de l'essence ou de l'éthanol, ce n'est pas nécessairement optimal du point de vue des ressources vivrières, du point de vue du maintien de la biodiversité. Bon, il y a un optimum à trouver entre plusieurs problèmes. Et cet optimum, il existe aussi au niveau social. C'est vrai qu'une taxe carbone, elle est probablement indispensable d'une manière ou d'une autre si on veut qu'on puisse permettre de faire venir des énergies de substitution, faire venir l'idée d'économie. Il faut qu'il y ait une incitation forte et le prix de l'énergie a toujours été trop bas et il faut certainement remonter ce prix de l'énergie si on veut que certains nombres de choses soient possibles. Comment on le fait par contre ? Comment ça se met en place concrètement? Quelles sont les catégories de citoyens qui sont touchés? Ça, ça relève de la politique au sens muré le plus noble du terme, qui est d'essayer de trouver un intérêt commun à travers des intérêts particuliers. Et là, je pense que c'est normal qu'il y ait des débats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'échappera pas à affronter notre futur. Et je pense aussi qu'il faut distinguer le court terme et le long terme. On parle beaucoup quand même dans ces problèmes-là d'économiser. Économiser de l'énergie, économiser des ressources, et économiser, normalement, ça coûte pas trop. Ça permet plutôt d'économiser aussi de l'argent.
Dernière question, on a beaucoup parlé de confiance au cours de cette émission. Comment rétablir la confiance auprès du GIEC? Revenons au GIEC. Hervé Le Treut pour commencer et Michel Petit pour le mot de la fin.
Mais moi, je crois qu'il faut probablement, là aussi en matière d'éducation, être dans un temps un peu long. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Michel Petit sur le fait que les rapports du GIEC sont espacés de 5 ou 6 ans avec raison, parce qu'il faut le temps d'un travail sérieux, d'un travail approfondi. On sait que c'est aussi le temps des polémiques scientifiques. Il y a eu beaucoup de polémiques à l'intérieur de la communauté scientifique, des mesures qui n'étaient pas facilement compatibles avec d'autres, des mesures au sens d'un phénomène physique. 2, 3, 4 ans de discussion entre scientifiques, on arrive à savoir qui a tort, qui a raison, en allant dans le détail technique des choses. Donc tout ce travail de fond, que ce soit au niveau du scientifique, au niveau de l'éducation, c'est un travail qui prend du temps. Et je pense que pour faire un travail utile, il faut du temps, et la confiance demande du temps. Donc je crois qu'il faut faire vraiment un travail sérieux sur la durée et que c'est l'essentiel pour établir la confiance.
Michel Petit, pour terminer.
Moi, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Hervé et j'ajouterais simplement qu'en plus, et malheureusement, le réchauffement climatique ne faisant que s'amplifier avec le temps, il deviendra de plus en plus évident pour tout le monde et ce qui aujourd'hui reste quand même un peu une construction des scientifiques échappant à l'observation courante pour une large part, deviendra totalement évident au fur et à mesure que le temps va s'écouler, surtout si on continue à essayer d'entretenir l'illusion que le réchauffement climatique n'est pas un vrai problème pour l'humanité.
Eh bien merci de nous avoir apporté ces précisions, j'espère que nos auditeurs se feront une idée entre les climato-sceptiques et puis vos travaux en tant que membre ou ex-membre du GIEC. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons beaucoup d'émissions sur la climatologie et qu'il y a un thème climatologie. Amis auditeurs, il vous suffit de cliquer sur ce thème climatologie et vous verrez toutes les émissions en compagnie de Michel Petit, d'Hervé Le Treut et également de Jean Jouzel et d'autres scientifiques. Merci Hervé Le Treut, merci Michel Petit et j'espère à bientôt pour de prochaines émissions.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci.